Bonsoir à toutes et à tous. Donc cette soirée se situe dans le cadre de la Biennale des sciences humaines intitulée « Des livres et des idées » dont la première édition cette année a pour thème générique « Penser la crise ». Les partenaires de cette biennale sont l'ENSIB, la librairie Passage qui tient une table de vente dans la salle, l'école des hautes études en sciences sociales et la bibliothèque municipale de Lyon, en collaboration avec la Fondation de la Maison des Sciences de l'Homme, FMSH, comme on le dit. Alors, le projet « Des livres et des idées » consiste à tenter de faire le point sur la question du devenir des sciences humaines et sociales et de leur vitalité. À l'époque, Sophie Barluet intitulait son rapport commandé par le ministère de la Culture et de la Communication, remis en 2004, « L'édition des sciences humaines et sociales, le cœur en danger ». On peut brosser en quelques traits le contexte de ce rapport, la chute du mur de Berlin et la prégnance, comme allant de soi, du capitalisme financier, l'effacement du politique depuis le 11 septembre 2001, entrée fracassante dans le XXIe siècle. Et d'un autre point de vue aussi, dans le même contexte, le bouleversement des techniques de lecture et de publication numérique. Pour autant, l'édition critique traduit, découvre, parfois survit, les chercheurs publient. On a parlé aujourd'hui à l'ENSIB, puisque les journées ont commencé cet après-midi, du renouveau des éditions militantes avec les éditions de L'Échappée et leur librairie Quilombo, celle d'Aden à Bruxelles. Demain, samedi, sera présenté le coffret Faire des sciences sociales, édition de ça va venir, l'école des hautes études en sciences sociales. La pensée, elle aussi, est toujours féconde. Christophe Prochasson, cet après-midi, nous adressait un panorama des sciences humaines et sociales. De jeunes chercheurs interrogent l'histoire et le colonialisme pour comprendre les révolutions du Moyen-Orient, sondent l'économie et la finance, analysent nos sociétés. Nous en rencontrerons quelques-uns demain à l'ENSIB. Je vous incite à vous rendre à la journée qui se tient ce samedi à partir de 10h. Le programme doit se trouver dans la salle. Alors ce soir, nous avons demandé à Paul Ariès, politologue qui lui aussi participe de ce mouvement de renouveau de la réflexion et de l'édition en sciences humaines, notamment par son activité éditoriale dans des revues comme Le Sarcophage, qui maintenant s'appelle La vie est à nous, Les Indignés, mais aussi par la publication d'ouvrages comme notamment De la simplicité volontaire contre le mythe de l'abondance en 2010 et Le socialisme gourmand en 2012, tous deux dans la collection Les empêcheurs de penser en rond à la découverte. Nous lui demanderons donc de nous aider à prendre du recul sur les façons de définir, analyser, comprendre la crise et de nous aider aussi de nous ouvrir des pistes pour apporter des réponses qui refusent les pièges du système dominant et qui nous aident à revitaliser notre réflexion. Merci donc et la parole à Paul Ariès.
Bonjour, merci de votre invitation et merci de votre présence. Je m'exprimerai ce soir à la fois comme politologue, spécialiste de la modernité, mais aussi comme citoyen engagé. J'assume depuis bientôt 6 ans la responsabilité d'un bimestriel qui s'appelait longtemps Le Sarcophage et qui est devenu La vie est à nous. Et j'anime la revue internationale trimestrielle du réseau des Indignés. Penser la crise, c'est pour moi penser une série de mutations. Il n'y aura pas de retour à l'équilibre. Il n'y aura pas de retour au passé. Il existe un très large accord de la communauté scientifique, mais également politique, pour dire que nous allons dans le mur. C'est-à-dire que nous assistons à la fin d'un monde. Il y a cependant 2 postures. Il y a ceux qui pensent qu'il est possible de sauter par-dessus ce mur, et il y a ceux qui préconisent de multiplier les pas de côté. Alors tout d'abord, quelques mots de ceux qui proposent de sauter par-dessus le mur. Ce sont les partisans de ce qu'on nomme le capitalisme vert. Le capitalisme vert, ce n'est pas simplement un artifice marketing. Ce n'est pas simplement du greenwashing, c'est véritablement cette volonté, ce fantasme d'adapter la planète et si nécessaire l'humanité aux besoins du productivisme, aux besoins de l'économie. Adapter la planète, pour mon dernier ouvrage, nous avons recensé les 100 projets les plus financés aujourd'hui à l'échelle internationale. Vous trouvez bien sûr la généralisation des techniques artificielles de modification du climat. Vous trouvez l'idée de créer un immense bouclier autour de la Terre pour la protéger des rayons du soleil. Vous trouvez l'idée de mettre sur orbite des milliards de petites lentilles de 60 cm de large pour filtrer la lumière solaire. Vous trouvez le projet de couvrir 3% du globe pour contrebalancer le doublement des émissions de CO2. Vous trouvez l'idée de répandre 1 million de tonnes de poussière d'aluminium et de soufre dans l'atmosphère afin de faire baisser la température terrestre de 1 degré. Vous trouvez l'idée de piéger, de stocker du CO2 dans des puits de carbone. Le président Sarkozy avait annoncé la création des 2 premiers puits de carbone dans l'est de la France. Vous trouvez l'idée de développer des arbres OGM, mangeurs de CO2. Vous trouvez l'idée de repeindre en blanc les nuages gris grâce à la projection de particules, ce qui augmenterait de 12% les micro-gouttelettes. Vous trouvez aussi la possibilité de jeter à la mer des milliards de balles, comme des balles de tennis de couleur blanche, pour faciliter la réflexion solaire, sans oublier les pollinisateurs artificiels pour faire face à la chute drastique des colonies d'abeilles. On le voit, notre société n'est pas en manque d'innovation. Notre société n'est pas en panne d'idées. Tout est prêt. On calcule déjà le retour sur investissement. Tout est prêt. L'autonomie des grandes firmes, mais aussi les fantasmes. L'idée que la science aura réponse à tout. Mais il n'y a pas que la planète qu'on souhaite aménager, adapter. C'est aussi l'humanité. J'ai eu l'an dernier 2 polémiques assez vives avec 2 personnages venant des 2 bords opposés du champ politique. D'un côté, Alain Madelin, le pape du libéralisme à la française, et d'un autre côté, Jacques Attali, le conseiller des présidents, quel qu'il soit. Et Madelin comme Attali se veulent tous les 2 fous amoureux de ce qu'on nomme le transhumanisme. Le transhumanisme, vous n'avez pas fini d'en entendre parler. Le transhumanisme, c'est l'idée que l'humanité telle que nous sommes, avec nos limites, nos faiblesses, nos défauts, serait aujourd'hui insuffisante et qu'elle devrait être dépassée. Et ce qu'on nous propose, c'est déjà 2 évolutions. La première étape, c'est le passage de l'homo sapiens sapiens que nous sommes à ce qu'il nomme le robot sapiens, le cyborg, l'individu appareillé avec ses prothèses techniques, intelligentes ou pas. Nous ne l'aurons pas, existe déjà sur le marché des équivalents techniques pour l'ensemble des organes humains. Et ça va nous être vendu au nom de la plus grande générosité. Ça permettra de rendre la vue à l'aveugle. Mais comme le dénonce mon ami Jacques Testard, le père scientifique du premier bébé éprouvette, ce qui est en jeu là derrière, c'est bien l'idée d'aller vers une humanité augmentée. C'est bien l'idée que l'humanité telle qu'elle est aujourd'hui insuffisante. Et la deuxième étape qu'on programme, c'est le fait de passer de l'homo sapiens que nous sommes à ce qu'il nomme le soma sapiens, l'homme pharmaceutique, grand consommateur de médicaments et de substances d'amplification cognitive afin d'agir sur la composition biochimique du cerveau et de créer sensations et croyances à volonté. Le grand spécialiste suédois en neurosciences, Anders Sandberg, se veut rassurant. Je cite « Un jour, on décryptera la formule biochimique du sentiment amoureux et on pourra se donner ce sentiment à volonté. » Fin de citation. Ce qui vaut pour le sentiment amoureux vaudrait pour l'ensemble des émotions humaines. Toute cette ingénierie émotionnelle permettrait finalement de créer un véritable paradis de l'esprit en modifiant la personnalité. On le voit là encore. On ne manque pas d'innovation technologique. On ne manque pas d'innovation économique. Ce qui est peut-être aujourd'hui en souffrance, c'est la créativité. Ce qui est peut-être en souffrance, c'est la capacité à tenir un discours poétique, à tenir un discours prophétique, c'est-à-dire à donner du sens à la société qu'on souhaite transmettre à nos enfants et à nos petits-enfants. Je dirais que les pensées critiques aujourd'hui, je pense notamment aux pensées des gauches et aux pensées de l'écologie, ne sont pas à la hauteur de ce projet de capitalisme vert. Et si ces pensées ne sont pas à la hauteur, c'est parce qu'il y a de multiples difficultés. Tout d'abord, connaître n'est pas savoir. Ensuite, savoir ne suffit pas pour agir. On peut prendre un exemple. On sait que si la température terrestre augmente de plus de 2 degrés, on va engendrer ce qu'on nomme des seuils d'irréversibilité. C'est-à-dire que ce qui constitue aujourd'hui des puits de carbone vont devenir des sources de carbone. Et c'est le passage automatique à 3 degrés. Et si nous arrivons à 3 degrés d'augmentation de la température, c'est la fonte du permafrost, c'est-à-dire des terres gelées en profondeur. Et c'est le passage quasi automatique à 4 degrés, c'est-à-dire l'affaiblissement des grands courants océaniques verticaux qui piègent dans les profondeurs océanes des quantités extraordinaires d'hydrates de méthane. Et si ces cheminées d'hydrates de méthane devaient se réaliser, ça a commencé, c'est le passage automatique à 5 degrés. Et c'est la fin, je dirais, du débat pour toute une partie de la vie sur Terre. Cela, nous le savons. Mais ce savoir ne suffit pas. Ce savoir ne suffit pas à agir. Pour pouvoir agir, il faut autre chose qu'une pensée. Pour pouvoir agir, il faut aussi du désir. Il faut aussi en avoir envie. Songeons à la thèse de Michel Serres, développée dans son petit bouquin « Le malpropre ». Michel Serres essaie de comprendre pourquoi, alors qu'on sait depuis 30-40 ans que nous allons dans le mur sur le plan climatique, nous ne faisons rien. Michel Serres fait une comparaison avec le monde animal. Il dit que les animaux ont besoin d'uriner pour marquer leur territoire. Et si nous, humains, nous avions besoin aussi de marquer notre territoire, c'est-à-dire de détruire, de casser, d'exploiter, pour assurer un besoin qui serait tout aussi authentique, tout aussi vrai que le besoin de partager, que le besoin d'amour. On le voit là encore. Ce n'est sans doute pas en augmentant le savoir qu'on aura les outils pour pouvoir organiser les mutations que l'on souhaite. Ma réflexion est fondée à la fois sur une lucidité triste et sur une bonne nouvelle. La lucidité, tout d'abord. Si la planète était un village de 100 habitants, 81 habitants vivraient dans des quartiers pauvres. 48 habitants sur 100 n'auraient pas accès aux installations sanitaires. 25 habitants sur 100 seraient sans logement ou vivraient dans des taudis. 16 n'auraient pas accès à l'eau potable. 14 sur 100 seraient malnutris. Un seul serait diplômé du supérieur. Le capitalisme fonctionne à l'exclusion. Les pauvres, les naufragés du système sont à leur place. Mais j'ai dit que mon analyse se fondait aussi sur une bonne nouvelle. La planète est déjà bien assez riche pour pouvoir nourrir et faire vivre 7 milliards d'humains. L'ONU a estimé qu'il suffirait de mobiliser pendant 25 ans 30 milliards de dollars par an pour régler le problème de la faim dans le monde. 30 milliards de dollars par an pendant 25 ans et plus personne ne crève de faim. L'ONU a estimé qu'il suffirait de mobiliser, toujours pendant 25 ans, 70 milliards de dollars par an pour régler le problème de la grande pauvreté dans le monde. Rassurez-vous ou inquiétez-vous, ces 30 ou ces 70 milliards, on ne les trouve pas. Mais le budget officiel de l'armement, 1200 milliards de dollars. Le marché des stupéfiants, 800 milliards de dollars. Le marché publicitaire mondial, 900 milliards de dollars. Et ce que les spécialistes appellent le PIC, le produit international criminel, l'argent sale, 1000 milliards de dollars. C'est-à-dire 10 à 15% du PIB mondial. 10 à 15% d'argent sale à l'échelle planétaire, à comparer au même pas 1% qui est concédé pour ce qu'on appelle l'aide au développement. Il suffirait finalement de consacrer 0,35% du PIB mondial pendant 25 ans pour régler les plus grandes misères de la planète. C'est-à-dire qu'il suffirait de consacrer une journée de travail planétaire par an pendant 25 ans pour que plus personne ne crève de faim, pour que tout le monde ait accès à l'eau, à la santé, à la culture. Ça, c'est la bonne nouvelle. La planète est déjà bien assez riche pour nourrir 7 milliards et bientôt 8 ou 9 milliards d'humains. Je voudrais tenter ce soir d'expliquer comment nous essayons de penser la crise au sein de notre petit réseau, celui du sarcophage, la vie est à nous, celui des indignés. Nous avons tout d'abord une conviction. Cette conviction, c'est que nous n'avons pas réponse à tout. Nous n'avons pas réponse à tout, pas moins, mais pas plus que les autres. C'est-à-dire que nos modèles de pensée sont devenus insuffisants, incomplets, face à ce que Edgar Morin nomme la complexité. Mais surtout, surtout, nous en avons fini, ou du moins nous essayons, avec toute idée, tout fantasme de totalisation possible. Il n'y aura jamais de totalisation ni a priori, ni même a posteriori. Nous croyons dans le caractère non seulement indépassable, mais fécond de ce manque. On ne fonde pas une politique sur la science. Et quand on dit cela, on porte un jugement critique sur ce qu'a été presque deux siècles d'histoire des gauches. On ne fonde pas non plus un projet sur un programme finalisé de A à Z. Et là encore, je sais bien qu'en disant cela, je prends à rebrousse-poil toute une tradition politique. Je crois cependant que cette posture est la seule féconde pour qui ne souhaite pas agir, donc aussi penser à la place des gens, mais avec eux. Plutôt que l'idée d'une nouvelle théorie globalisante, je préfère penser en termes de prise de position, ce que certains pourraient appeler des coups de gueule théoriques, conceptuels, un peu à la façon dont Bourdieu disait que la sociologie est un sport de combat. Je prends donc très au sérieux la maxime de notre journal, vouloir comprendre, c'est déjà désobéir. J'avoue que cette maxime a suscité des résistances au sein même de notre collectif. Certains préféraient une formule plus confortable, comprendre, c'est désobéir. Je crois cependant à cette tension nécessaire. Je crois à la fécondité de ce vide. Le sarcophage, la vie est à nous, a pu devenir un lieu de convergence de toute une série de familles politiques, justement parce que nous avons accepté de ne pas avoir d'interprétation globalisante. Dire que notre pensée est une pensée non globalisante, une pensée de convergence, peut être compris de deux façons. C'est admettre déjà qu'il existe une pluralité de vocabulaire, de priorités, de points de vue, en fonction de nos histoires, de nos mémoires respectives. C'est dire aussi qu'il faut comprendre ce travail de construction d'une pensée en convergence comme le fait d'admettre que chacune des sensibilités porte un moment de vérité. Au sein, par exemple, de l'équipe de La Vie est à nous, nos plus jeunes militants, ceux qui animent notamment nos forums, sont de sensibilités libertaires. Ce n'est pas le cas de la majorité des animateurs du journal. Mais il faut bien admettre que parce qu'ils ont cette sensibilité, ils ont une capacité à voir, à percevoir ce que d'autres, dont moi, ne perçoivent pas. Ils nous sont donc utiles comme sont utiles les autres traditions, les autres mémoires de l'émancipation. Rien ne serait donc plus dangereux que de vouloir opposer les unes aux autres les différentes familles de l'émancipation. Rien ne serait plus dangereux dans la famille idéologique qui est la mienne, celle de l'objection de croissance, que de jouer à plus décroissant que moi tu meurs, de se vouloir le nouveau parfait, le nouveau Qatar. Renoncer à tout projet totalisant, renoncer à toute science de l'histoire, à toute science de l'émancipation, c'est dire que le chemin se fait en marchant, selon la formule du poète espagnol Antonio Machado. Le chemin se fait en marchant. Mais dire cela, ce n'est pas adopter une posture facile. Nous avons d'autant plus besoin de boussole que les repères sont moins nombreux et sont moins fragiles. Dire que nous avons besoin de boussole signifie que nous devons être intransigeants sur quelques grands principes. Ceux de la liberté, entendus comme ce qui assure la promotion de l'autonomie pour le plus grand nombre. Le type de société que l'on doit viser, c'est une société d'usagers, maîtres de leurs usages. Nous devons être intransigeants aussi sur le principe de l'égalité, entendu comme une fiction nécessaire. Et je dois avouer que je ressens de plus en plus un malaise lorsque j'explique à mes étudiants ce qu'est l'égalité. On a tendance systématiquement à m'opposer des faits de biologie, à m'opposer les performances sportives et pourquoi pas intellectuelles. Mais c'est ne pas comprendre ce qu'est l'égalité. C'est bien parce que nous sommes inégaux dans les faits que nous choisissons de nous reconnaître comme égaux. Si nous étions égaux dans les faits, la question de l'égalité ne se poserait pas. Ce qui se poserait, c'est la question de l'identité. Poser la question de l'égalité, c'est poser le statut des fictions, des histoires qu'on se raconte. Nous avons toujours besoin de nous raconter des histoires, quand on est petit comme quand on est grand. Mais il y a des histoires qui sont humanisantes et il y a des histoires qui sont déshumanisantes. Postuler l'égalité entre les humains, par-delà le réel, c'est être du côté d'une histoire humanisante. Autre élément sur lequel nous devons être intransigeants, c'est bien sûr la fraternité qui va bien au-delà de la solidarité. Mais moi, je suis aussi intransigeant sur la nécessité de sortir du capitalisme. Je dirais que l'échec du capitalisme, n'a jamais été aussi patent qu'aujourd'hui. Prenez une publicité qui passe en ce moment à la télévision. Publicité pour une banque. Une sorte de lapsus extraordinaire. Une des premières paroles prononcées dans cette publicité est celle d'un banquier qui dit « Je ne suis pas un escroc ». Pour que l'idéologie publicitaire arrive à dire cela, c'est la preuve que le système est plutôt mal en point. Moi, je ne crois pas à la possibilité de moraliser, de réguler, de verdir le capitalisme. Le capitalisme est un système intrinsèquement productiviste. L'image n'est pas très bonne, mais le capitalisme peut être comparé à une bicyclette. Quand vous faites du vélo, si vous arrêtez de pédaler, vous vous cassez la figure. Eh bien, le capitalisme, s'il arrête de produire et de faire consommer toujours plus, il se casse aussi la figure. C'est ce qui se passe aujourd'hui, avec la récession, avec l'austérité. Mais il faut être aussi intransigeant sur la nécessaire sortie du productivisme. Le productivisme, c'est finalement l'autre façon de parler de l'économisme. L'économisme, c'est cette idée que plus serait forcément égal à mieux. C'est vrai dans le champ de l'économie, mais ça pourrait l'être aussi dans le champ des sentiments. Comme si de multiplier les amants ou les amantes était une condition de plus grand bonheur. On le voit, le toujours plus ne signifie pas un mieux vivre, un bien vivre. Et puis, s'il faut refuser le productivisme tout autant que le capitalisme, c'est parce que le pétrole ou les gaz de schiste socialistes ne seraient pas plus écolo que le pétrole ou les gaz de schiste capitalistes. Et s'il faut refuser le nucléaire socialiste, c'est parce que le nucléaire socialiste ne serait pas plus autogérable que le nucléaire capitaliste. Mais il y a un troisième point sur lequel nous essayons d'être intransigeants. C'est le passage nécessaire des passions tristes aux passions joyeuses. Je fais partie de ceux qui considèrent que le capitalisme est mortifère. Le capitalisme tue tout ce qu'il touche. On le voit avec le développement des semences stériles en agriculture. On le voit avec la baisse de la fécondité des spermatozoïdes. On le voit avec la casse des cultures populaires. On le voit avec la destruction des écosystèmes. Si le capitalisme est du côté de la mort, eh bien nous devons être du côté de la vie, de la grande vie, c'est-à-dire du désir, qui est bien différent des envies de consommation, du mimétisme. Mais être intransigeant sur ces questions, cela signifie pour moi la nécessité d'un retour, et là je sais aussi être provoquant en le disant, d'un moral en politique. Comment pourrons-nous nous opposer au transhumanisme, à ces projets visant à transformer l'humanité, si nous ne nous mettons pas d'accord sur une définition de grande valeur de ce qu'est l'humanité et de ce qu'il y a de plus d'humain dans l'homme? L'enjeu pour nous, objecteurs de croissance amoureux du bien-vivre, c'est donc d'abord de déconstruire les idées dominantes, de déconstruire le sens commun. Einstein disait que tant qu'on a la tête sous forme d'un marteau, on voit tous les problèmes sous forme de clous. Tant que nous aurons la tête formatée par l'économisme, nous irons chercher la solution à l'ensemble des problèmes sociaux dans le toujours plus. Toujours plus de production, toujours plus de consommation, toujours plus vite, toujours plus grand, toujours plus fort. Ça ressemble presque à la devise des Jeux olympiques. Et nous succombons, en fait, à l'hubris à la démesure. Si la pensée qu'on essaye de développer, celle, je dirais, d'une nouvelle gauche antiproductiviste, peut remplir une fonction, c'est dans sa prétention à penser à la fois une série de grandes crises. La crise économique, la crise sociale, la crise écologique, la crise du politique, la crise des institutions, la crise du symbolique. Parler de crise systémique, c'est de dire que quelque chose fait lien entre toutes ces crises. Quelque chose les unit. Et ce qui fait lien, c'est la perte du sens des limites. Notre société a totalement sombré dans ce que les Grecs anciens appelaient l'hubris, la démesure. Nous en faisons tous l'expérience chaque jour. Lorsqu'un enfant n'est pas capable d'avoir des limites parce qu'on ne lui a pas transmises, il va les chercher dans le réel. C'est le développement des conduites à risque. C'est le développement de la toxicomanie. C'est le développement du suicide. Mais lorsqu'une société comme la nôtre n'est pas capable non plus de se donner des limites, c'est l'épuisement des ressources, c'est la crise climatique, c'est l'explosion obscène des inégalités sociales. Nous ne pourrons cependant finir avec cette hubris, avec cette démesure, seulement si nous déconstruisons les notions qui les fondent, les notions dominantes. Sinon, nous risquerions fort de basculer, malgré nous, dans une posture réactionnaire. Je crois qu'il existe aujourd'hui ce qu'on appelle communément un certain nombre de mots-valises qui sont en fait des mots-poisons, c'est-à-dire qui nous empêchent de réfléchir. Je pense à des termes comme celui de croissance, comme celui de développement, comme celui de travail, comme celui de production, comme celui de consommation. Ces termes génériques nous empêchent de penser. Ils nous font confondre l'eau nécessaire pour boire et pour faire son ménage avec l'eau nécessaire pour remplir sa piscine privée. Ces mots « poison » naturalisent ce qui existe. Ils font comme si la société de consommation, c'était simplement une société où on consomme plus que dans une autre. Ça, c'est l'apparence. La société de consommation, c'est pas une société où on consomme plus que dans une autre, c'est une société où on a appris à avoir, à entretenir d'autres rapports aux objets. On n'a jamais consommé une serpillière. On l'utilise. Avant la société de consommation, il n'y avait pas un manque. Il n'y avait pas rien. Avant la société de consommation, il y avait des cultures populaires, rurales, traditionnelles. Et pour pouvoir passer de ces cultures à la société de consommation, il a fallu laminer, broyer un certain nombre de résistances. Je dirais qu'il faut en général 2 générations pour faire un bon petit consommateur. C'est-à-dire qu'autrement, nous avons en quelque sorte des anticorps qui nous empêchent de succomber aux dictats de la mode et à l'agression publicitaire. Je dirais que l'enjeu est de taille. L'enjeu est de taille. Parce que si l'on pense que la société de consommation, c'est simplement une société où on consomme plus que dans une autre, nous allons très vite dériver vers une austérité, vers une décroissance bigote, celle des directeurs de conscience. Et nous n'aurons pas de politique d'émancipation. La décroissance n'appartient à personne. C'est une auberge espagnole qui peut déboucher sur le meilleur comme sur le pire. Le pire, pour moi, c'est lorsque Alain de Benoît, l'un des grands intellectuels, parce qu'on pense bien, y compris chez nos adversaires, qu'on ne lit jamais assez, mais lorsque Alain de Benoît parle du salut par la décroissance, Il n'évoque bien sûr pas la même chose que moi, derrière le même mot. Le pire, c'est lorsque le MEDEF organise lors de son université d'été un séminaire sur la décroissance. La décroissance version Parizeau, c'est pas franchement ce qu'il y a de mieux et de plus jouissif. Mais le pire, c'est aussi pour moi ce qu'on peut lire, par exemple, dans le journal La Décroissance, qui fait l'éloge de l'austérité, qui fait l'éloge de la récession, qui combat la gratuité, le revenu garanti, qui combat le mouvement des indignés ou des anonymous. Cette décroissance est réactionnaire parce qu'elle est incapable de penser ce qu'est la société de consommation. Elle en fait la même lecture que la publicité, une lecture simplement inversée. La pub promet le toujours plus, cette décroissance-là promet le toujours moins. C'est tout aussi stupide, c'est tout aussi peu émancipateur. L'objection de croissance, la décroissance, l'antiproductivisme, peu importe le vocabulaire. Ce n'est pas de faire la même chose en moins, c'est pas d'apprendre à se serrer la ceinture un peu beaucoup passionnément ou à la folie, c'est de construire d'autres styles de vie, d'autres genres de vie. C'est-à-dire, c'est de passer d'une analyse purement quantitative, celle du pouvoir d'achat, celle du niveau de vie, à une analyse qualitative. Qu'est-ce qu'on produit, comment et pour qui? Les mots sont donc essentiels pour pouvoir penser, pour pouvoir rêver, pour pouvoir se révolter. Regardez d'ailleurs comment les grands mots qui ont servi au combat du XXe siècle ont été meurtris, salis par les tragédies du XXe siècle, je pense notamment au stalinisme. Regardez comment le mouvement des indignés, avec ses insuffisances, ses contradictions, a éprouvé le besoin d'inventer de nouveaux mots, d'inventer de nouvelles modalités d'action. Parce que sans ces nouveaux mots, nous sommes incapables de penser le réel. Les mots imposent leur définition du réel. Ils participent à la création du réel. Ils déterminent le champ de validité des questions. Bonne question, mauvaise question. Ce n'est que du point de vue de Veolia que l'eau pour remplir sa piscine équivaut à celle nécessaire pour faire son ménage. Ce n'est que du point de vue du capitalisme, du productivisme, qu'on a besoin de toujours plus d'énergie. Eh bien, dans l'équipe de La Vie est à nous, des indignés, nous faisons un pari. Celui qu'être du côté du questionnement est plus efficace que d'être du côté de la réponse. Une des grandes différences, d'ailleurs, entre ce qu'on appelle les religions et les sectes, se situe à ce niveau-là. Les religions peuvent être du côté du questionnement. Qu'as-tu fait de ton baptême? C'est ce qu'on appelle les mystères de la foi. Les sectes n'offrent que des réponses. Il y a même un trop-plein de réponses. C'est tout le sens également du passage dans la société de la symbolique à la sémiologie. La symbolique, c'est ce qui permet de dire l'indicible. C'est ce qui nous ouvre sur de nouveaux horizons. La sémiotique, avec la publicité, par exemple, c'est ce qui nous coince contre le mur. Là, ça ne s'interprète pas, ça ne se discute pas. Mais c'est aussi toute la dimension libératrice de l'art. L'art existe qu'à partir du moment où il me questionne, où il m'interroge. Pour qu'il y ait, il faut qu'il y ait co-construction. C'est-à-dire que le regard du spectateur compte autant que l'intention qui est celui de l'artiste. Poser la crise, penser la crise, ce n'est donc pas d'abord donner des solutions toutes faites. Malraux disait « Peu importe si on ne partage pas mes réponses, si on ne peut ignorer mes questions. » Peu importe si on ne partage pas mes réponses, si on ne peut ignorer mes questions. Je dirais que le sarcophage, la vie est à nous, ne cesse donc de questionner, de faire l'éloge du doute. Et nous avons besoin pour cela, à côté des mots poison, contre ces mots poisons, de mots obus qu'ils pulvérisent la pensée dominante, la pensée molle, ce que je vais appeler les globalivernes. La décroissance, l'objection de croissance ne sont pas des concepts scientifiques. Pas plus, pas moins que la notion de développement durable. C'est une incitation à penser en dehors des clous. C'est une incitation à penser en dehors du système. J'ajouterais que faire de la politique, du point de vue des dominés, du point de vue des exploités, du point de vue de ceux que les indignés appellent les 99%, ce n'est pas donner d'autres réponses aux questions dominantes. C'est apprendre à poser d'autres questions. Et cela ne va pas de soi. Non seulement il faut y mettre toute notre intelligence collective, mais je dirais que l'intelligence froide ne suffit pas. Il faut aussi y mettre une intelligence pratique, une intelligence sensible. Je donnerai deux exemples. Ce sont les mêmes paysans pauvres brésiliens qui ont d'abord fondé le mouvement des paysans sans terre, puis 3 ans après, ont fondé le MAB, le mouvement des affligés par les barrages, des victimes des grands barrages. Et le MAB le dit de façon tout à fait claire. Il n'est pas, par principe, contre l'énergie hydraulique. Mais le MAB poursuit son questionnement. L'énergie pour faire quoi et pour qui? Et la réponse du MAB est limpide. Il y a déjà assez d'énergie pour satisfaire les besoins du peuple. Ce sont les grandes industries qui ont besoin de toujours plus d'industries. Ce que l'on doit ici au MAB, c'est cette capacité à poser une autre question que la question dominante qui voudrait nous enfermer dans le choix de savoir s'il faut plutôt continuer à développer le pétrole, le nucléaire ou les gaz de schiste. La question qui est posée par le MAB, c'est l'énergie pour faire quoi? Deuxième exemple. J'ai co-organisé avec le sarcophage et la principale communauté Emmaüs de France cet été le premier forum mondial de la pauvreté. Nous avons réuni environ 12 000 personnes pendant 3 jours pour débattre de la situation de la pauvreté. Le grand fil rouge de ces 3 jours de débat, c'est été de questionner autrement le problème de la pauvreté. Non seulement la pauvreté du plus grand nombre est la conséquence de l'enrichissement des autres, ce qui veut dire là encore que pour penser, il faut changer de vocabulaire. Cessons de parler de pauvres et de riches. Parlons d'appauvris et d'enrichis. Il n'y a pas un monde développé face à un monde sous-développé, mais un seul monde mal développé. On peut le dire plus simplement. Notre mode de vie occidental, dont nous sommes si fiers, notre mode de vie occidental ne tient pas simplement à notre travail et au travail des générations précédentes. Le mode de vie occidental tient aussi à des siècles d'esclavagisme, de colonialisme et de néocolonialisme. Nous n'avons pas voulu, lors de ce forum mondial, nous contenter de recenser ce dont manquent les appauvris. Nous avons posé une nouvelle question en disant qu'être pauvre, ou qu'un pauvre, ce n'est pas un riche auquel il ne manquerait que les moyens financiers. Un pauvre, ce n'est pas un riche sans argent. Dire cela, c'est ouvrir le champ de l'interrogation. Dire cela, c'est dire que les pauvres ont d'autres rapports à la vie, aux autres, à eux-mêmes, à la nature. Considérer que les pauvres ne relèvent que du registre de la privation, c'est le point de vue des enrichis vis-à-vis des appauvris. C'est le point de vue des dominants sur les dominés. Un pauvre a une autre culture une culture qui aujourd'hui n'a pas le droit de citer. On oppose toujours les pays riches développés aux pays pauvres en voie de développement. Mais par exemple, dans le rapport aux anciens, aux personnes âgées, qui est le plus riche ? Qui est le plus humain ? Les pays pauvres ? Ou notre société du toujours plus, qui voudrait nous interdire d'être malades, de vieillir et de mourir ? Ce ne sont pas les pays pauvres économiquement qui ont inventé la malbouffe. La table des pays pauvres est toujours plus riche sur le plan rituel, sur le plan symbolique. Ce que nous questionnons ici, ce n'est pas un manque, c'est une différence. On opposait autrefois le lapin paysan, le porc ouvrier, le veau bourgeois. Chaque milieu social avait sa propre table, avec la même fierté, la même authenticité. Aujourd'hui, après 70 ans de société de consommation, c'est poulet pour tout le monde. Oui, mais ce n'est pas le même. Pour une minorité, c'est du poulet fermier bio. Et pour l'immense majorité, c'est de la volaille de batterie. Qu'est-ce que ça veut dire sociologiquement, politiquement ? Ça veut dire qu'on a transformé les cultures populaires en sous-produits de la culture dominante. Charles Fourier disait au tout début du 19e siècle que le capitalisme disparaîtrait le jour où les riches envieraient la table des pauvres. C'est-à-dire que le jour où la richesse du lien social, où la richesse des agencements sociaux, où cette capacité à humaniser l'humain serait telle que même le riche trouverait que son opulence est plutôt tristounette. Il faut donc reconnaître de la dignité, de la qualité, de la complétude aux autres cultures, et notamment aux cultures populaires. Le pauvre, c'est la culture des gens de peu, comme disait Pierre Sansot. Le pauvre, c'est la culture des gens de peu. C'est pas la culture des gens de rien. Et je veux dire, ce qui caractérise notre société aujourd'hui, c'est bien ce passage de la culture des gens de peu à une culture des gens de rien, dans le sens où, comme le relève Najid Ranmena, partout à l'échelle planétaire, la misère chasse la pauvreté. Il y a une différence ontologique entre la pauvreté dont on peut vivre et la misère. Je suis convaincu que nous ne pourrons accéder à ce nouveau questionnement que si nous acceptons d'ajouter, je dis bien ajouter, à l'intelligence de l'esprit, une intelligence pratique, une intelligence de la main, mais aussi une intelligence du cœur. Cette intelligence pratique, c'est celle du menuisier expérimenté, qui, en touchant simplement un morceau de bois, peut déjà vous parler de sa qualité, de son histoire. Cette intelligence pratique, c'est celle du médecin, qui, à force de consulter, sent un certain nombre de choses que l'outillage technique et biochimique ne lui permettrait pas de percevoir. Cette intelligence pratique, c'est celle de l'instituteur ou l'institutrice qui sent bien le moment où le léger brouhaha tout à fait propice au travail prend un peu plus d'importance et deviendrait à ce moment-là néfaste à la possibilité de travailler. Mon voisinage depuis plusieurs années avec une partie du mouvement Emmaüs ou ATD Carmonde m'a obligé à remettre en cause une partie de mon fonctionnement. Moi, je suis un homme de l'écrit. J'ai été éduqué, formé pour cela. Oui, mais si je privilégie l'écrit dans mes relations avec les compagnons et les compagnes d'Emmaüs, je renforce le sentiment d'incompétence. Cette population est une population lettrée qui sait lire et écrire. mais elle relève largement encore d'une culture orale. Lors de la toute première rencontre qu'on avait eue ensemble, j'avais cru bien faire de faire un compte-rendu de réunion, d'acter ce qui avait été décidé. Ça n'a pas été mal pris, mais ça a été incompris. Puisqu'on s'était mis d'accord, puisqu'on s'était serré la main, quel besoin d'acter par l'écrit ? Je dirais, regardons comment dans nos municipalités on communique vis-à-vis de ce qu'on appelle nos quartiers dits sensibles, en privilégiant là aussi systématiquement l'écrit. Et après, nos maires s'étonnent de ne pas être compris, de ne pas entendre ce qui se dit. Un certain nombre de villes sont en train de développer un autre dispositif en demandant à des habitants, sur la base du volontariat, d'être des témoins dans les deux sens, de la parole, de la faire circuler. Et je dirais qu'en réintroduisant cette oralité, nous rendons aussi toute sa dignité au milieu populaire. Privilégier l'écrit, ce n'est rien d'autre qu'une forme de racisme social. Privilégier l'écrit, c'est renforcer ce sentiment d'incompétence. Je voudrais rappeler que la vraie démocratie, c'est toujours de postuler la compétence des incompétents. La vraie démocratie, c'est de reconnaître que l'expertise de monsieur et madame tout le monde vaut bien celle du spécialiste. Dire cela, ce n'est pas de la démagogie. Le spécialiste, il a son rôle. Le rôle du spécialiste, ce n'est pas de décider à notre place. Le rôle du spécialiste, c'est de montrer qu'il y a toujours des choix, qu'il y a toujours des alternatives. Et ensuite, c'est à la population de choisir. Et c'est précisément parce que nous sommes usagers d'un certain nombre de biens communs, de services publics, que nous pouvons en éprouver la complexité et voir plus loin, voir plus profondément qu'un expert officiel peut simplement le faire. Deuxième élément qui me semble important si on veut avoir une pensée de la crise, des mutations à la hauteur des risques et des enjeux, c'est de prendre conscience de la richesse des alternatives qui existent déjà. Rimbaud, au XIXe siècle, nous sommait de redevenir des voyants. Eh bien, aujourd'hui aussi, il faut rendre visible l'invisible. Le système, sa grande force, c'est de rendre invisibles non seulement les milieux populaires, mais de rendre visibles également les véritables alternatives. Le philosophe Jean-François Lyotard aimait dire qu'il existait des paroles en souffrance. C'est-à-dire qu'il y a des mots qui étaient prononcés, mais que plus personne n'entendait parce que nous n'avions pas l'oreille entraînée à cela. Eh bien, je suis convaincu qu'existent déjà des alternatives en souffrance. Ce que j'ai nommé dans mon dernier bouquin « Un socialisme gourmand en souffrance ». L'ébauche d'autres styles, d'autres genres, d'autres formes de vie à l'intérieur même de cette société. Mais pour en être conscient, eh bien, il faut décentrer notre regard et accepter de regarder peut-être les plus pauvres. À la fois les individus les plus pauvres, mais aussi les pays les plus pauvres. Je suis aujourd'hui très à l'écoute de tous ces nouveaux gros mots qui se cherchent à l'échelle mondiale pour dire les nouveaux chemins de l'émancipation. Les Indiens d'Amérique, en langue quichua, parlent du sumacafse, la recherche d'une vie équilibrée. En Équateur, en Bolivie, on parle du buen vivir, du bien vivre. En Inde, ce sont des dizaines de milliers de villages qui arborent en emblème un escargot, symbole du ralentissement nécessaire et qui se disent partisans d'une vie pleine. En Grèce, on a réveillé le souvenir d'un vieux mot, l'eudémonia, la vie bonne. Nous sommes un certain nombre en France à nous souvenir que le nom du programme du Conseil national de la Résistance, c'était les jours heureux. Jours heureux, vie pleine, vie bonne, autant de façons de dire qu'il faut passer des passions tristes aux passions joyeuses. Moi, je ne crois plus au lendemain qui chante parce que je veux chanter au présent. C'est-à-dire que je suis convaincu qu'il faut en finir avec toute idée de sacrifice. Chaque fois dans l'histoire qu'on a agité cette notion de sacrifice, ça a toujours nécessité un appareil répressif pour gérer ce sacrifice. L'Église a promis le paradis céleste. Et on a pu connaître l'inquisition, le fondamentalisme, l'intégrisme. Le stalinisme a produit le paradis sur terre pour après-demain matin. Et ce qu'on a vu fleurir, c'est le GPU, le goulag. Toute notion de sacrifice, toute notion de report à plus tard d'une jouissance possible ne peut que maintenir le fétichisme de l'État, le renforcement du pouvoir. Pepe Mujica, qui est le président de la République de l'Uruguay, déclarait il y a quelques jours « Il ne faut pas perdre sa vie à accumuler. C'est le besoin d'accumuler qui déforme l'intelligence des gens intelligents. Cette civilisation est une tromperie. Elle fait croire qu'on pourra continuer sans cesse à accumuler, et ce n'est pas vrai. Et elle fait croire que chacun pourra consommer comme un Européen ou un Nord-Américain, ce qui n'est pas vrai non plus. Tout ça va sur une limite. Moi, je serai mort, je ne le verrai pas, mais toi, tu le verras bien, et il faut t'en soucier parce que tu vas devoir t'en occuper. » Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, à travers cette déclaration de Pepe Mujica, ce qu'on voit, c'est que le débat que l'on peut avoir ce soir, c'est pas un débat de gosses de riches, c'est pas un débat d'enfants de la société d'hyperconsommation. Ce sont les plus pauvres qui se posent aujourd'hui le mieux ces questions. Ce sont les plus pauvres qui disent que le toujours plus, c'est pas la solution, et qu'il faut apprendre à penser autrement. Lorsque Alberto Acosta, l'ancien ministre de l'énergie en Équateur, président du Conseil constitutionnel, dit le buen vivir, le bien vivre, ce n'est pas la société du bien-être au sens de la société de consommation occidentale. Mais ces pays pauvres, je dirais qu'ils ne limitent pas aujourd'hui leur cadeau conceptuel, théorique, à cette notion de buen vivir. C'est aussi la notion d'anti-extractivisme. Cette notion d'anti-extractivisme, c'est l'idée qu'il faut condamner toutes ces industries qui reposent sur une exploitation toujours plus forte des ressources. En Europe, nous avons traduit à notre façon cette notion d'anti-extractivisme et nous parlons de grands projets inutiles imposés, dont Notre-Dame-des-Landes est aujourd'hui un bon emblème. La revue Les Indignés va consacrer, en partenariat avec le deuxième forum européen contre les grands projets inutiles imposés, son dossier central à cette question. Et puis, je n'aurai pas le temps de le développer, mais ces pays pauvres nous font d'autres questions, d'autres cadeaux théoriques. Le buen vivir, l'anti-extractivisme, mais aussi le pachamamisme. Cette idée qu'il faut se poser la question de savoir si nous n'avons pas tout intérêt en tant qu'humains à reconnaître des droits à la nature. Oui, mais quand on dit ça, généralement, je vois immédiatement une tempête de protestations, notamment dans les rangs de la gauche et de l'écologie, d'une partie de l'écologie, en disant comment reconnaître des droits à des non-humains. Mais que je sache, ça fait un peu plus d'un siècle qu'on a reconnu des droits à des non-humains qu'on appelle une entreprise. Et quitte à reconnaître des droits, je préfère effectivement développer une nouvelle pensée juridique, philosophique, permettant de préserver l'écosystème plutôt que d'accorder des droits à des entreprises qui pillent, qui détruisent les écosystèmes. Écouter les milieux populaires, c'est choisir aussi Michel Verret contre Bourdieu. Les milieux populaires ont toujours eu une mauvaise presse. Je n'ai pas le temps de trop développer, mais c'est vrai que chez Bourdieu, on avait cette tendance à considérer que les cultures populaires étaient des cultures dominées, de la domination. Chez Michel Verret, on avait au contraire ce désir de lire dans les cultures populaires d'autres modes de vie en gestation, d'autres modes de vie possibles. Cette vision dévalorisante des milieux populaires est liée à l'idée d'une bonne conscience à apporter de l'extérieur, d'une vérité détenue soit par une avant-garde politique, soit par la science et ceux qui parlent en son nom. On nous dit, par exemple, les scientifiques, que les énergies renouvelables seraient toujours insuffisantes. On ne se moque plus des écolos en parlant de retour à la bougie. Même EDF et même Total parlent de mix énergétique, mais c'est en fait pour mieux enterrer les énergies renouvelables. Puisque ce qui reste premier, c'est toujours le pétrole, le nucléaire, les gaz de schiste, et puis on accepte, allez, une dose homéopathique pour les énergies renouvelables. Mais ce sont ces mêmes qui nous avaient dit que l'interdiction du travail des enfants au XIXe siècle était impossible. Ce sont les mêmes qui nous avaient dit que la réduction de la journée de travail à 8 heures était impossible. Ce sont les mêmes qui nous avaient dit que les congés payés, c'était impossible. Que la création de la sécurité sociale à la libération était impossible. Ce sont les mêmes qui nous disent aujourd'hui que la gratuité des services publics, gratuité de l'eau vitale, des transports en commun, des services funéraires, de la restauration scolaire, serait impossible. Penser la crise, c'est penser non seulement avec son intelligence, avec sa sensibilité, mais je dirais que c'est penser avec le point de vue des exploités, avec le point de vue des dominés, avec leur pratique. Une pratique qui transforme le regard, qui ouvre le champ des possibles. Penser la crise, c'est choisir ou se laisser imposer de penser le verre à moitié vide ou à moitié plein. Bref, c'est penser à partir des passions tristes ou joyeuses. Je voudrais terminer en disant qu'on ne pourra pas repenser la crise actuelle si nous n'élargissons pas notre critique du capitalisme. Le capitalisme, c'est foncièrement trois choses. Le capitalisme, c'est déjà un système économique, Jacques Lacan disait, diablement efficace. Et l'essentiel, c'était le diablement. C'est-à-dire qu'il était sans limite, qu'il allait jusqu'au bout, jusqu'à sa propre destruction. Je dirais que cette dimension, on sait encore bien la dénoncer. Mais le capitalisme, ce n'est pas qu'un système économique qui repose sur l'exploitation du travail. Le capitalisme, c'est aussi l'imposition d'un mode de vie, d'un style de vie et de produits spécifiques. Et cela, les gauches et l'écologie ont largement perdu cette critique du style de vie capitaliste. Pensez qu'en 1953, Benoît Frachon, le secrétaire général de la CGT, déclare au Congrès confédéral « Si nous acceptons la civilisation de la voiture, nous aurons le mode de vie américain qui va avec. » Pensez aujourd'hui un secrétaire général d'une confédération syndicale qui déclarait ceci. Au pire, il passerait pour un dur à jouir, mais plus sans doute pour un foldingue. C'est la preuve que beaucoup de ketchup a coulé dans nos têtes. Mais le capitalisme, ce n'est pas que cela, sinon ça ne tiendrait pas. Le capitalisme, il nous fait jouir, il nous donne à jouir. Le capitalisme, c'est une réponse à nos angoisses existentielles. À la peur de mourir, à la peur de vieillir, au sentiment de finitude. Et la réponse capitaliste, c'est le toujours plus. Toujours plus de production, de consommation, toujours plus vite, toujours plus grand, toujours plus loin. Le capitalisme, il développe des dissolvants d'angoisse existentielle. Une jouissance d'avoir, une jouissance d'emprise. Toujours plus de richesses, toujours plus de pouvoir sur les autres. Tant que nous n'aurons pas une autre forme de jouissance à opposer à cette jouissance d'avoir, d'emprise, on n'y arrivera pas. Et la seule autre forme de jouissance que l'on puisse opposer, c'est la jouissance d'être. C'est se souvenir que l'être humain est d'abord un être social. C'est ce qu'essaye de résumer maladroitement notre slogan « Moins de bien, plus de liens ». Nous devons être du côté de la fabrique de l'humain. Parler aujourd'hui de société capitaliste, c'est un abus de langage. Ce monde capitaliste ne fait plus société. Ce qui le caractérise, c'est la déliaison sociale. Mais parler de monde capitaliste, c'est aussi un abus de langage. Cet univers capitaliste n'est plus porteur de sens, de projet. Donc le grand enjeu pour moi, si l'on veut penser la crise et les mutations en cours, c'est d'inventer une autre forme de jouissance, d'inventer d'autres dissolvants d'angoisse existentielle. Entendons-nous bien, ce n'est pas en culpabilisant les gens, salauds de pauvres qui osaient encore revendiquer alors qu'il y a le feu à la planète. Ce n'est pas en appelant à la responsabilité qu'on y arrivera. C'est en donnant envie, c'est en suscitant le désir. Le philosophe Gilles Deleuze disait que seul le désir est révolutionnaire. Oui, seul le désir permet de faire bouger des montagnes. J'ai développé dans mon dernier bouquin une quinzaine de dissolvants d'angoisse existentielle à partir de ce qui se développe aujourd'hui. On pourrait citer déjà le ralentissement nécessaire. Nous avons mis depuis 2 siècles toute notre intelligence à inventer des prothèses techniques à accélérer. Et nous sommes arrivés à cette dictature des temps rapides sur les temps lents et des temps courts sur les temps longs. Eh bien, il faut mettre la même intelligence à inventer des prothèses à ralentir. Prothèses techniques, le bridage des moteurs. Des centres-villes piétonniers. Prothèses sociales, le mouvement slow food, alimentation lente par opposition au néfaste food. Mais aussi le réseau international des villes lentes. Ou des villes en transition, ces centaines de villes qui ont choisi de ralentir. Regardez comment toutes les sociétés qui nous ont précédées, et j'espère celles qui nous suivront, ont toujours accordé une place essentielle aux anciens. Parce que les anciens sont les représentants de la lenteur. Et s'il faut rendre leur place aux anciens aujourd'hui dans la société, c'est d'abord pour les enfants. Regardez ces enfants de 6-8 ans qui ont un emploi du temps de cadre dirigeant, qui n'ont même pas le temps de s'ennuyer, alors que l'ennui est essentiel pour pouvoir se construire. Regardez ces gamines de 10-12 ans qu'on déguise en Lolita, à qui on vole le temps spécifique de leur enfance. Ces gamines, ces gamins qu'on fait grandir trop vite, ça devient ensuite des ados adultes, des éternels adolescents parfaitement adaptés à une société boulimique, parfaitement adaptés à une société de consommation. La lenteur est un grand enjeu politique. Et je me félicite que la cellule de prospective du Grand Lyon ait choisi prochainement d'organiser une réunion publique sur cette question-là. Mais il ne faut pas en rester au discours. Comment organiser ce ralentissement? Quel type d'aménagement urbain? Où mettre telle installation? Où mettre les écoles maternelles? Ou mettre les maisons pour les personnes âgées, réintroduire du désordre dans la ville, changer le mobilier urbain. Regardez notre mobilier urbain qui est conçu pour empêcher les SDF de dormir et les amoureux de s'épancher. Regardez ces gares conçues pour permettre au courant d'air d'avoir le maximum de prise. Regardez ces villes qui utilisent certaines musiques pour faire fuir ceux qu'on ne souhaite pas voir, notamment les plus jeunes. Je dirais qu'il faut en finir avec toutes ces formes d'inhumanité. Je terminerai en donnant un dissolvant d'angoisse existentielle, donc une réponse au capitalisme, au productivisme, aux passions tristes, qui est pour moi essentielle. On peut reprocher tout ce qu'on veut à cette société capitaliste. Il faut reconnaître qu'anthropologiquement, elle est efficace. Hein. Nous, nous sommes tombés dans la mamie du toujours plus il y a 70 ans et on en veut encore. Hein. Tant qu'on n'aura pas quelque chose d'aussi fort que le toujours plus, on n'y arrivera pas. Et à mes yeux, la seule chose qui soit à la hauteur, c'est le don, c'est le partage, c'est la gratuité. La gratuité, on l'a chevillée au cœur. C'est à la fois le souvenir du paradis perdu, du sein maternel. Ce sont les relations amoureuses, amicales, associatives. Ce sont les services publics, les biens communs. Le grand combat pour le XXIe siècle, c'est de défendre et d'étendre la sphère de la gratuité. Mais quand on parle de gratuité, c'est une gratuité construite, économiquement construite. L'école publique est gratuite, mais elle est payée par l'impôt. C'est une gratuité culturellement construite. Il n'y a pas de société marchande sans culture de marché. Il n'y aura pas de société de la gratuité sans culture de la gratuité. C'est une gratuité politiquement construite. Moi, j'aime bien ces maires qui interpellent la population et qui disent, compte tenu de nos moyens limités, on ne peut pas tout faire. Préférez-vous qu'on conserve la gratuité du stationnement pour les voitures ou préférez-vous qu'on adopte la gratuité de l'eau vitale, 4 litres d'eau par jour et par personne. Lorsque nous avons réuni, il y a maintenant 3 ans, le premier forum national sur la gratuité des services publics, on a été époustouflés par la richesse des expériences. Ici, au lac d'Essonne, on commence par la gratuité de l'eau vitale, 4 litres d'eau par jour, gratuité des abonnements. Ailleurs, c'est la gratuité des transports en commun urbain. Ailleurs encore, c'est la gratuité des services culturels. Ailleurs encore, c'est la gratuité de la collecte et du traitement des ordures ménagères. Ailleurs encore, c'est celle de la restauration scolaire. Ailleurs encore, c'est celle des services funéraires. Ça, j'aime bien. Gratuité des services funéraires. La ville de Mouans-Sartou, notamment. Regardons comment le capitalisme a évacué la mort. Non seulement aujourd'hui, il faut se cacher pour mourir. On meurt tout seul, mais les rituels de mort ont disparu. Eh bien, moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut remettre la mort au centre de la vie, non pas pour être morbide, mais pour être jouissif. C'est-à-dire, prenons conscience, assumons notre limite pour pouvoir tout simplement redevenir des bons vivants. Ceux qui posent la question du débat sur la fin de vie, ceux qui posent aussi la question de la gratuité des services funéraires. Au moins, devant la mort, soyons égaux. Et si nous sommes égaux devant la mort, nous avons peut-être plus de chances de l'être dans la vie. J'ai été horrifié, je terminerai vraiment là-dessus, d'entendre, dans la région d'ailleurs, au moment des dernières élections régionales, des gens se disant de gauche dire « Nous, nous ne sommes pas pour la gratuité des transports en commun. Gratuité pour les chômeurs, oui. Mais ceux qui peuvent payer doivent payer. Oui, mais si on accepte ce discours pour les transports en commun, pourquoi ne pas l'accepter pour l'école? Pourquoi ne pas l'accepter pour la santé? Il y a en fait 2 conceptions de la gratuité. Il y a une gratuité d'accompagnement du système, la gratuité pour ceux qui sont tombés, la gratuité pour les naufragés. Et cette gratuité-là, elle ne va jamais sans condescendance. Est-ce que vous êtes un pauvre méritant? Elle ne va jamais sans flicage. Est-ce que vous êtes un vrai demandeur d'emploi ou un feignant? Et puis, il y a une deuxième gratuité, une gratuité d'émancipation. Ce qui est beau avec l'école publique, c'est qu'on ne demande pas au gamin s'il est gosse de riche ou gosse de pauvre. C'est qu'il est admis en tant qu'enfant. Et pourquoi ce qui est vrai pour l'école, pour la culture, ne devrait-il pas l'être pour les 3 autres grands piliers qui permettent d'exister? Le logement, la santé, l'alimentation. Et on voit que poser ainsi les questions, c'est non seulement répondre à l'urgence sociale, à l'urgence écologique, à l'urgence politique, c'est donner du grain à moudre à ce qu'on appelle la démocratie participative. Voilà, je vous remercie pour votre patience.
Alors, si vous voulez prendre la parole pour réagir, poser des questions, le micro est à votre disposition. C'est souvent la première question qui est la plus dure.
C'est plus qu'une question, en fait, une réflexion, parce que j'aime bien ce côté spinoziste d'avoir ces passions joyeuses. Néanmoins, il me semble quand même qu'il y a une difficulté. Il y a quelques minutes encore, avant que vous arriviez, j'ai parlé avec une personne qui est ici sur la possibilité justement de transformer cette lutte idéologique qui consiste à dire avoir toujours une manière de penser qui est la pensée des dominants. Et donc, pour pouvoir justement transmettre une idée différente, une autre alternative en réalité, on était face à une difficulté. C'était les comment faire. Donc, là où je voulais vous interroger, comment vous faites pour transformer d'une manière si spinoziste ces passions tristes en passions joyeuses?
Autre intervention peut-être, autre réaction, question? Vous avez été submergé, comblé. Ah, question.
Dans l'optique du ralentissement, est-ce que vous êtes pour le réapparition des lavoirs?
Je veux déjà peut-être rebondir sur les deux questions qui ont été posées. Tout d'abord, la question des lavoirs. Alors, je pourrais déjà me défiler en disant précisément, j'ai montré que ce n'est pas, je dirais, à nous de décider, à partir d'une posture d'avant-garde, politique ou scientifique, ce qu'il faut faire ou ne pas faire. C'est à la population de choisir. Donc je pourrais dire, demanderons aux gens s'ils préfèrent revenir au lavoir. Ça serait un peu court sur patte comme réponse. Deuxième élément de réponse, qui n'est pas complet mais qui est intéressant. Il y a une étude qui a été faite il y a quelques années, je ne me souviens plus d'ailleurs dans quel bouquin, sur le temps réel passé par les femmes, parce que souvent ce sont les femmes, à s'occuper du linge. Eh bien, le temps passé pour s'occuper du linge n'a pas baissé depuis l'invention de la machine à laver. Ce ne sont plus les mêmes linges, on n'a plus forcément la même conception de l'hygiène, il y a un certain nombre de facteurs de ce type. Faut-il considérer que la technologie, si l'on veut élargir votre question, serait en soi dangereuse? Je crois qu'il faut renvoyer dos à dos une posture technophile et une posture technophobe. Je dirais que la question de l'adoption de la machine à laver pouvait se poser en 1950, où on a eu effectivement une résistance importante des femmes à la machine à laver. On disait globalement, ça lave mal le linge, etc. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de fierté de la ménagère. Quand je dis ménagère, c'est pas péjoratif, hein, à défendre ceci. Mais je dirais que l'histoire a avancé. Aujourd'hui, nous avons d'autres choix technologiques à accepter ou à refouler. Puis j'aurais tendance à dire, pour moi, la solution, c'est tout sauf le pas en arrière. Déjà parce qu'aucune société ne revient jamais en arrière. Croire qu'on puisse revenir en arrière, c'est comme croire qu'un individu qui subit ce qu'on appelle une régression en âge redeviendrait un enfant. Non, c'est un adulte malade. La société d'après la voiture, parce qu'il va bien falloir en sortir, c'est pas le retour à la calèche. C'est quelque chose d'autre à inventer. Et là-dessus, je dirais que j'ai pas de réponse toute faite sur ce qui succédera. Ce qui est certain, c'est qu'il va falloir s'interroger sur la relocalisation. C'est-à-dire pas simplement comment on se déplace, mais quel est le sens des déplacements. Pensez que le pot de yaourt que vous consommerez peut-être ce soir fait en moyenne plus de 7000 km à travers l'ensemble de ses composants. Pensez que pour la première fois de l'histoire de l'humanité, on a inventé une agriculture qui consomme plus de calories qu'elle en apporte. Chaque fois que vous consommez une calorie de laitue, vous mangez en même temps 66 calories d'essence. Donc quand on parle de développer des circuits courts, c'est un vrai enjeu. Lorsqu'avec un certain nombre de villes avec lesquelles on travaille, nous essayons d'avoir une réponse à la crise, en disant notamment qu'il faut revenir en régie municipale pour la restauration scolaire. C'est pas pour faire la même chose que les grandes chaînes de restauration industrielle. C'est pour faire une cuisine sur place, servie à table, une alimentation relocalisée, resaisonnalisée, moins gourmande en eau, moins carnée, assurant la biodiversité. Si on doit avoir des petits pois sur la carte de la cantine, au lieu d'avoir toujours la même variété, il faut avoir 10-15 variétés différentes dans l'année. C'est pas un grand soir, mais ça montre que c'est possible. Et puis en même temps, on y trouve du plaisir. Et c'est un petit bout, non pas de réponse, mais un passage à la question qui était posée. Comment faire ? J'aurais déjà tendance à dire, regardons de près ce qui se passe. Regardons par exemple quelle est aujourd'hui la consommation médicamenteuse de la population pour pouvoir tenir le coup. Regardons ce que nous disent les médecins sur l'explosion des maladies psychiques, mentales. Y a-t-il autant de plaisir que cela à être dans cette société ? Tout à l'heure, je crois avoir cité la phrase de Fourier qui disait « Le jour où les riches environront la table des pauvres, le capitalisme s'écroulera. » Si vous avez la curiosité de regarder sur Internet, même si ce n'est pas bon pour votre bilan carbone, mais regardez sur Internet le site de la communauté Emmaüs de l'Escarpeau. Et vous verrez comment, puisqu'ils ont choisi d'être en lieu de vie, plus en lieu de passage, ce qui a changé beaucoup de choses. Le rapport à l'alcool, qui n'est plus interdit, mais il y a un accompagnement. Ce qui a changé aussi l'attitude vis-à-vis des femmes, qui ne sont plus diabolisées. On a des couples, on peut vivre ensemble. Et bien, on n'est plus en dortoir, on a construit des maisons, on a construit un éco-village. Et chaque compagnon a eu droit à un budget. Ils ont été aidés par des architectes pour construire, j'allais dire, la petite maison de leur rêve. Regardez, il y a un bouquin qui retrace toutes ces expériences. Et vous verrez que oui, beaucoup de classes moyennes pourraient envier l'habitat des plus pauvres. Donc comment faire ? En multipliant les pas de côté, en multipliant les expériences. Si la gauche aujourd'hui est à faune, si la gauche ne sait pas quoi faire, c'est de sa faute. La gauche a choisi majoritairement au XXe siècle de casser le mouvement coopératif. La gauche a choisi majoritairement au XXe siècle de casser ce qu'on appelait le syndicalisme à base multiple. La section syndicale, le club de sport non compétitif, le club de théâtre, l'orchestre, tout ce qu'ils faisaient contre-société. La gauche a choisi de casser ce qu'on appelait le socialisme et le communisme municipal. Pourquoi a-t-on fait ça ? Parce qu'on considérait que ça détournait du grand enjeu qui était la conquête du pouvoir central. Eh bien, il faut reconnaître qu'on s'est trompé. Déjà, ce que nous apprend le XXe siècle, c'est que le grand problème pour la gauche, c'est pas la conquête du pouvoir, c'est même pas le partage du pouvoir, c'est de s'en défaire. Et puis, je dirais que la gauche s'est trop économisée, au double sens du terme. Elle a accordé une place trop grande à l'économie, dans sa réflexion, mais comme nos adversaires. Regardez au moment des élections présidentielles et législatives, quel type de journaliste était censé apporter la vérité sur ce que venaient de dire les candidats ? Un journaliste économiste, pas un psychanalyste, pas un sociologue, pas un poète. Combien d'économistes au conseil scientifique d'attaque ? Combien de poètes ? Pourtant, on sait la place des poètes dans la résistance. On sait la place des poètes dans le mouvement social qui est aux Antilles. Donc, nous avons choisi de casser ces pas de côté, ces expériences. Eh bien, moi, le pari que je fais, mais ce n'est qu'un pari, c'est multiplions ces pas de côté, multiplions ces expériences. Faisons, c'est l'éditorial que j'ai signé dans le dernier sarcophage, utilisons le droit à l'expérimentation. Existe dans la Constitution française, depuis une dizaine d'années, le droit pour les villes d'expérimenter. C'est l'article 37.1 de la Constitution qui autorise les villes à sortir du cadre de la loi pour faire des expérimentations. Il n'y a pas de ville de gauche qui l'utilise. Pourquoi ? Parce que nous sommes encore, pour faire simple, dans un modèle jacobin, parce que nous attendons le grand soir. Multiplions les pas de côté, des fois ça ne marchera pas, mais ce qu'on peut espérer, c'est que des fois que ça marche et que ça suscite le désir, que ça donne envie. Mais je n'ai pas d'autre, je dirais, il n'y a sûrement pas de projet finalisé prêt à l'emploi.
Merci. En tant que contribuable et encore plus usager, j'ai du mal à croire au principe de gratuité. Donc, est-ce que c'est vraiment le bon terme à employer ? Faudrait-il pas inventer un autre terme, finalement, échange ou... Enfin bon, ce principe de gratuité, moi, je n'y crois pas du tout. Pour moi, c'est une utopie. Donc, j'aimerais bien que vous expliquiez un peu plus là-dessus, s'il vous plaît.
Alors, je vais répondre en trois temps. Tout d'abord, je n'ai pas le fétichisme des mots. Si vous préférez parler de liberté d'accès au service public, je suis preneur. Nos amis québécois, canadiens, nord-américains préfèrent cette notion de liberté, de free. C'est très bien. Mais j'appartiens à une histoire qui est celle de l'Europe et de la France. C'est pas moi qui ai inventé le mot d'école publique gratuite. Petite provocation gentille. Quand vous dites que vous ne croyez pas à la gratuité, proposez-vous de supprimer la gratuité de l'école ? Proposez-vous de supprimer la gratuité de l'éclairage public ? Proposez-vous de supprimer la gratuité des soins ? Alors vous allez me dire, mais tout ça, c'est payé. Mais bien sûr, c'est pour ça que j'ai dit, quand on parle de gratuité, c'est une gratuité construite, économiquement construite. Ce qui permet de dédramatiser la question de l'impôt. Là encore, je crois, comme disait Rimbaud, hein, il faut redevenir des voyants, il faut regarder ce qui se passe. Comment à Aubagne a-t-on développé la gratuité des transports en commun depuis 4 ans ? On a simplement doublé la taxe que payent les entreprises. Dans un premier temps, quand la ville a voulu développer la gratuité, il y a eu l'opposition de la droite, d'une partie de la gauche, et plus inattendu, l'opposition des chauffeurs, qui disait « si c'est gratuit, ça vaut rien, si ça vaut rien, on vaut pas grand-chose ». Donc il a fallu effectivement, je dirais, une discussion, un travail d'accompagnement important pour que ça puisse se mettre en place. Au bout de 4 ans, 98% de la population est satisfaite, dont les chauffeurs. Quel est le bilan de cette gratuité sur Aubagne ? Alors déjà, ça a permis, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais je crois que c'est de l'ordre de 20% de faire baisser l'utilisation de la voiture. Ça a permis de faire baisser de moitié de ce qu'il faudrait les émissions de la ville d'Aubagne par rapport aux engagements de la France à Rio. Ça a permis en même temps de défendre le droit au déplacement. C'est-à-dire qu'on voit de nouvelles pratiques. Les jeunes se mettent à un arrêt de bus, ils prennent le premier bus qu'ils placent pour aller se balader. Réappropriation de la ville. Et puis ça a transformé aussi les rapports humains. Je vais citer le président de la communauté d'agglomération d'Aubagne, qui aime bien répéter qu'avant, à Aubagne, les personnes âgées ne payaient pas. Et les jeunes qui auraient dû payer, ne payaient pas non plus. Donc il y avait sans arrêt une micro-incivilité, violence, chacun se regardait de travers. Eh bien, la gratuité a permis aussi d'améliorer les rapports humains dans la ville. Rien que pour ça, c'est intéressant. Il ne s'agit pas de prôner la gratuité de tout et comme solution unique. Il s'agit de constater déjà qu'on en a les moyens, que la société est assez riche pour offrir l'accès garanti à un certain nombre de services. Deuxièmement, c'est une réponse à l'urgence. Le grand phénomène majeur du XXe siècle, c'est le développement des classes moyennes. Aujourd'hui, les sociologues nous disent que nous sommes à la veille de la démoyennisation de la société, de la fin des classes moyennes. Cette génération des bac plus 5 à 1000 euros, celle de mes enfants et de mes étudiants. Génération des bac plus 5 à 1000 euros, on n'a pas fini. 1000 euros en France, beaucoup moins en Europe de l'Est, et encore moins au Maghreb. Cette démoyennisation de la société nous impose de refonder le pacte social. En 1944-45, lorsque la France est à genoux économiquement, mais debout politiquement, on crée un pacte social qui a la sécurité sociale. Mais en revanche, on se plante. C'est-à-dire que la sécurité sociale, au lieu de concevoir un mécanisme qui va essaimer, c'est-à-dire qui va s'étendre de plus en plus à plein de choses dans la société, sécurité sociale du logement, par exemple, c'est-à-dire lorsque je ne peux plus payer, que ça soit effectivement assuré pour ne pas me retrouver à la rue. On a créé un système qui était insuffisant. Aujourd'hui, ce système arrive au bout. Il faut recréer un nouveau pacte social. Et moi, je pense, alors au-delà du débat des vocabulaires, que oui, il faut garantir à chacun les moyens de vivre frugalement, certes, mais de façon sécurisée. Et ça, c'est doublement important. C'est rejoint aussi la question qui était posée, pour passer des passions tristes aux passions joyeuses. Le coup de génie, enfin, il n'y a pas de théorie du complot, hein, c'est un effet de structure, c'est pas volontaire. Le coup de génie de ce système, c'est d'insécuriser les gens. C'est la peur du lendemain, pour soi, pour ses gosses, pour ses petits-enfants. Parce que cette peur du lendemain, c'est ce qui permet ce gouvernement par la peur. Donc si nous arrivons à sécuriser économiquement en garantissant à chacun qu'il aura de quoi vivre, ce qu'on peut espérer, mais c'est un pari, ce qu'on peut espérer, c'est qu'on développe les autres dimensions de nos personnalités. Nous ne sommes pas que des forçats du travail et de la consommation, nous sommes des citoyens et ça prend du temps. Nous sommes aussi des poètes en puissance, nous sommes des amants et des amantes, ça prend du temps. Oh, il y a une petite étude qui est parue récemment, moi qui m'a vraiment, enfin qui m'a amusé. C'est une étude qui montre que les couples, dans plusieurs pays européens, dont la France, ont plus de relations intimes lorsqu'ils sont en vacances que lorsqu'ils bossent. Je ne sais pas s'il y a besoin de faire une étude pour arriver à ce constat. Oui, effectivement, cette société de forçat du travail s'en prend aussi à cette part la plus intime. Eh bien, moi, je rêve d'une société dans laquelle on aurait davantage le temps à cette intimité. On aurait davantage le temps à des relations amicales. On aurait davantage le temps à s'investir dans la société. Mais on n'a pas de programme finalisé. On n'a pas réponse à tout. Un des premiers pays à avoir adopté le revenu garanti inconditionnel, c'est la Namibie. Un des pays les plus pauvres de la planète. Là encore, on le voit, c'est pas une lubie de gosse de riche. Je dirais que c'est aujourd'hui, face à ce constat, pour ça que j'ai commencé en disant on a une bonne nouvelle, la planète est assez riche. Mais il faut choisir. Qu'est-ce qu'on paye ?
Moi, je voulais vous poser le problème, alors je ne sais pas comment le formuler, le problème de la communication. Si, dans ce monde ralenti, plus humain, on serait dans une communication enrichie avec son proche. Or, ces moyens technologiques que sont Internet, les ordinateurs et tout ça, nous ont permis d'être en communication justement avec les Indiens. On peut être en relation avec des gens à l'autre bout du monde qui ont les mêmes idées que nous. Par contre, on est en train de s'asseoir sur une montagne de déchets technologiques. Et là, je ne sais pas comment résoudre le paradoxe. Est-ce que je dois... où on va avec ça ? Parce que c'est quand même un enrichissement. Je trouve que ces nouvelles technologies nous ont enrichis, nous ont permis même de vaincre dans certaines luttes. Par contre, il y a une contrepartie énorme et je ne sais pas quoi en penser.
Et je crois que là encore, il y a plusieurs niveaux de réponse. Il y a ce que vous pouvez choisir de faire individuellement. Moi, si quelqu'un choisit de ne pas avoir la télé, si quelqu'un choisit de ne pas aller dans un hypermarché, je l'applaudis. Je trouve ça très bien. Mais rien ne me semblerait plus dangereux que de diaboliser ceux qui ont la télé et ceux qui vont dans les hypermarchés. Moi, je suis convaincu que les gens sont moins bêtes qu'angoissés, moins manipulé que désespéré. Donc il ne s'agit pas de se camper dans une posture de donneur de leçons, de directeur de conscience. Il s'agit de traiter cette angoisse et ce désespoir. Et c'est sacrément plus compliqué. Donc individuellement, eh bien, si effectivement, avec de bonnes raisons, vous considérez qu'il faut non utiliser ou peu utiliser ces nouvelles technologies, ben c'est très bien. Mais je ne pense pas qu'il faille en faire d'une manière générale une règle absolue, même si on sait que chaque fois qu'on fait un clic avec notre petite souris sur Internet, cela représente en moyenne 14 grammes d'émissions de carbone. C'est-à-dire que si je fais 200 clics par jour avec ma petite souris sur Internet, j'arrive à la quantité totale d'émissions de carbone auquel chaque humain a droit. Donc ça pose quand même un problème. Mais c'est sûrement pas en allant vers une sorte de gouvernement des sages, de tyrannie éclairée qu'on y arrivera. C'est en offrant des alternatives. En revanche, il y a un endroit où, à mon avis, oui, on doit prendre des décisions politiques. C'est à l'école, mais pour d'autres raisons. Moi, je considère que dans les établissements scolaires, notamment les établissements dits sensibles, c'est-à-dire là où les enfants sont plus en souffrance, ce dont on a besoin, ce n'est pas d'une fuite en avant technologique. Ce dont on a besoin, ce n'est pas d'une informatisation en France. Ce dont on a besoin, ce n'est pas de la wifisation des établissements. Ce dont on a besoin, c'est peut-être mettre un deuxième adulte par classe. C'est-à-dire ce dont souffrent ces enfants, c'est effectivement de la faiblesse de modèle humain, de modèle identificatoire. Et donc là, moi, oui, je pense qu'il faudrait, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, prendre des directives très fermes pour dire déjà pas de pub à l'école. Et puis également, d'avoir une réflexion sérieuse sur ce que signifie cette informatisation. Sur le plan humain, on commence à avoir pas mal d'études sur qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau. Je dirais qu'on sait très bien que ce n'est pas le même type de mémorisation et autres. Donc faisons attention avant cette fuite en avant.
Peut-être qu'après, et une autre là. On prend les deux dernières questions, peut-être. Hein, okay.
Vous avez parlé tout à l'heure qu'un pauvre, ce n'était pas un riche désargenté. On parle aussi souvent qu'un pauvre, il avait l'ignorance de son ignorance concernant la culture. Et j'aurais voulu savoir ce que vous en pensiez des droits d'auteur.
Il y a un moment, je vous regardais sur Internet. Il faut dire que c'est la première fois que je suis à votre conférence, que je suis en direct, voilà, physiquement. C'est intéressant ce que vous dites. D'autant que dans certaines cultures à l'étranger, il y a cette conscience collective de gratuité. Mais la question que je me pose personnellement aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas utopique? Peut-être que le mot est un peu grossier, excusez son utilisation. Je le dis puisque nous sommes dans un monde, dans une globalisation tellement engloutissante, que est-ce que ceux qui se mettront à appliquer cette politique de décroissance ne seront pas en retard par rapport à d'autres qui, à vue d'œil, n'y pensent jamais. Puisque aujourd'hui, nous avons une compétitivité qui va à une vitesse exponentielle. Oui, peut-être que lorsque certains le mettent en pratique, cette décroissance, d'autres en profiteront pour faire davantage dans leur croissance. Est-ce que ce n'est pas utopique dans ce sens? Et dans cette logique, qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que cette idée pourrait se développer peut-être dans un moyen terme? Est-ce que ça ne sera pas dans des siècles avant qu'on ne parle de peut-être de la fin du capitalisme actuel?
Voilà, donc on vous laisse la conclusion sur ces deux questions.
Alors tout d'abord sur les droits d'auteur. Moi je fais partie de ceux qui considèrent qu'aujourd'hui il ne faut pas pénaliser ce qui est par exemple le téléchargement libre sur Internet. Et j'aurais même tendance à dire que je vois dans cette culture du téléchargement un élément de gratuité qui s'est développé parmi les jeunes. Mais comment financer la création? Il y a des propositions qui ont été faites par un certain nombre d'associations, d'acteurs, qui est de taxer l'achat du matériel. Et en fonction de taxes sur l'achat du matériel, d'arriver à une rémunération. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Je dirais que rien ne serait pire que de délictualiser des millions et des millions de jeunes Français. Mais il n'y a pas que des jeunes d'ailleurs qui téléchargent gratuitement. C'est un peu la même chose que ce qu'on peut dire par rapport au cannabis. C'est-à-dire qu'une politique qui aboutit à pénaliser, sur le plan juridique, une partie importante de la population est une politique qui échoue. Y compris en termes de politique de la santé. Sur la temporalité, c'est-à-dire est-ce qu'on aura le temps? C'est un vrai débat. pour la première fois de l'histoire de l'humanité, le temps de la nature va plus vite que le temps politique. On sait que si on ne fait rien d'ici 30 ou 40 ans, on va se trouver devant des seuils d'irréversibilité. Et on ne sait pas ce qui peut arriver. Or, pour porter un projet politique, pour convaincre les concitoyens, pour faire des lois, pour les appliquer, pour en tirer des conclusions, ça prend beaucoup de temps. D'où la tentation, dans certains milieux écolos, mais pas seulement écolos, de mettre entre parenthèses la démocratie. Et on parle aujourd'hui de gouvernement des sages. On parle de tyrannie éclairée. Pour moi, c'est la pire des choses. J'ai une seule certitude, c'est qu'on ne s'en sortira pas sans un surcroît de démocratie. C'est en rendant la parole aux gens et en les écoutant que l'on peut effectivement avoir l'espoir. Alors, est-ce que ça suffira? J'en sais rien. Optimiste, pessimiste, très franchement, ça dépend des matins. Pendant presque 15 ans, mon éditeur me disait que lorsqu'on sortait de mes conférences, on avait le choix entre le gaz et la corde. Ça m'a culpabilisé quand même, hein. Mais ce n'est pas la raison essentielle pour laquelle j'ai décidé d'en finir avec, je dirais, ce réquisitoire qui nous assomme et d'essayer de développer, oui, des alternatives, des passions joyeuses. Parce que le fait de m'être mis à l'écoute de ce qui se passe à l'échelle de la planète, et notamment dans les pays les plus pauvres, montre déjà que l'écologie, ce n'est pas une affaire de riches. Ça, on aimerait nous en convaincre, hein. On voudrait nous convaincre qu'au-dessous d'un certain niveau d'achat, pouvoir d'achat, on ne pense pas à l'écologie. Ben, allez dire ça aux communautés indigènes sur les hauts plateaux andins. Allez dire ça aux populations nigériennes. On a des mouvements sociaux dans ces pays qui lient bien mieux que nous le social et l'écologie. Et là encore, il ne s'agit pas de se mettre, je dirais, à l'imitation de ce qui se fait. Il s'agit de penser que là aussi, nous n'avons peut-être pas réponse à tout. Hein? Et quand on, je dirais, quand on va dans un mur, quand une armée est engagée sur un faux chemin, l'arrière-garde, lorsqu'on fait demi-tour, devient l'avant-garde. Et moi, je suis convaincu qu'on aurait beaucoup à apprendre. Il faudrait aujourd'hui envoyer des missions d'Africains en France pour réapprendre aux gens à créer du lien, pour réapprendre aux gens comment s'occuper des anciens. Et puis sur le terme même de décroissance, moi j'ai toujours dit que le terme de décroissance était un mot au but. C'est pas un concept scientifique, mais c'est aussi un terme provisoire qui est appelé à être dépassé. Quel est le terme qui va lui succéder? On le voit de plus en plus. Aujourd'hui, on parle d'objection de croissance. Mais là encore, je pense que c'est faute de mieux. Je termine par une petite histoire. Nous avons changé le nom du sarcophage et c'était l'objet d'un débat long, houleux, dans la coopérative. Parce qu'une partie, peut-être les plus anciens, aurait bien aimé qu'on campe sur le versant négatif de la critique et qu'on prenne comme nouveau nom barricade, résistance, objection. Et les plus jeunes, notamment, souhaitaient qu'on campe sur le versant positif. Jours heureux, bien vivre, vive la vie. Vive la vie, c'était un des grands slogans de 1936. Et finalement, la vie est à nous, est une sorte de compromis, puisqu'on laisse sur le versant positif, et puis c'est un petit clin d'œil au film de Jean Renoir de 1936 sur la victoire du Front populaire et les premiers congés payés. Mais je dirais que ce débat, versant positif ou versant négatif, conflit de génération, conflit politique, passion triste, passion joyeuse, allons plus loin. Et je dis ça sans aucune méchanceté. Dans nos organisations syndicales et politiques, il y a souvent beaucoup moins de plaisir que lorsqu'on joue aux cartes avec trois copains ou lorsqu'on joue aux boules dans un club. Et bien, tant que nous n'arriverons pas à transformer ces pratiques politiques, tant que nous ne redévelopperons pas ce qu'on appelait dans l'Antiquité, mais aussi au XIXe siècle, des politiques de l'amitié à l'intérieur de nos organisations, on n'y arrivera pas. On duplique trop le mode de fonctionnement qu'on prétend combattre. Et après, on s'étonne que l'immense majorité, notamment des plus pauvres, disent tous pourris, tous les mêmes, et ne votent pas. C'est-à-dire que c'est effectivement de notre responsabilité de faire des organisations des lieux de circulation de la parole. Des lieux également, je crois qu'il faut en finir avec toute idée d'ascèse à gauche. Il faut miser au contraire sur l'intensification et le raffinement du plaisir. Allez, je termine vraiment par une petite image. Je me souviens dans les années 70 des tout premiers cortèges féministes. Les tout premiers cortèges féministes qui horrifiaient la gauche bien sage parce que les militantes féministes défilaient en faisant avec leurs mains le symbole du vagin comme emblème de la revendication du droit au plaisir. Regardons comment dans le mouvement féministe cette revendication du droit au plaisir, comme dans le mouvement ouvrier d'ailleurs, a largement disparu. Et comment aujourd'hui, eh bien, on parle simplement de partage des postes de pouvoir. Il y a une exposition actuellement dans le métro, je l'ai vu tout à l'heure, à la Part-Dieu, sur le pouvoir a-t-il un sexe ? Question intéressante, mais il aurait été tout aussi intéressant de se poser la question de comment réduire le pouvoir. C'est-à-dire comment aller vers une société qui ne repose pas sur l'hétéronomie, mais sur l'autonomie. Mais là encore, quand on fait cette exposition, on est convaincu d'être au summum de la pensée radicale. Eh bien, on est quand même très en retrait par rapport à ce qui pouvait se vivre et s'expérimenter dans les décennies, voire les siècles précédents.
Alors, merci beaucoup à Paul Ariès qui a tout à fait rempli sa mission de nous revitaliser.